Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Prenez place, le café des sports de Radio Foot ouvre ses portes comme chaque vendredi au menu Mauvaise Foi. Tacle appuyé, échange savoureux au menu, surtout Rémy N'Gono de la page Facebook éponyme. Bonjour Rémy.
Salut mon cher et salut à tous les auditeurs, auditrices qui m'attendent chaudement en Afrique, mais il fait très froid ici.
Oui, vous avez mis un beau manteau avec une doublure comme ça en laine. Voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas des photos, peut-être sur votre page Facebook.
Ah, ça c'est vrai. Je vais
ça vaudrait la peine que les auditeurs, que vos fans puissent voir votre beau manteau avec vous aujourd'hui, mon cher Rémy, votre contradicteur en chef qui a couru pour arriver à temps dans ce studio, Xavier Barret. Bonjour Xavier.
Bonjour à tous, oui, j'ai pédalé surtout.
L'éternel retardataire.
Mon vélo était crevé, j'ai dû en prendre un autre.
Merci d'avoir tout fait pour arriver à temps.
Il a toujours des accidents de vélo, c'est incroyable.
Mais il est là.
Oui, mais
il
protège la planète, moi, monsieur. J'ai pas un 4x4 qui crache du gaz des CO2. Hein.
C'est pas un gilet jaune.
On se contentera de parler football, si vous le voulez bien. Ce vendredi, vous avez entendu sa voix, le chef tout court, le réfé, est là également, un autre habitué du Café des Sports, Alejandro Valente. Bonjour Alejandro.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Et il est à mes côtés pour dire que de plus en plus il prend la sortie pour que je prenne la sienne.
Vous allez les laisser tranquilles, vos camarades, vous allez disserter sur les choses du ballon rond autour d'un verre. Un peu de convivialité mon cher Rémy. Dernier larron de ce Café des Sports aujourd'hui, Franck Simon. Bonjour Franck.
Bonjour Hugo, bonjour à tous. Avant de commencer l'émission, une pensée pour un de nos amis, une grande figure du sport et de l'image en Afrique, Jean Monboy, qui est décédé en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a 3 jours. Donc une grosse pensée à la presse ivoirienne et à la famille de Jean d'Endur. On a une pensée pour lui cet après-midi.
Une grosse pensée de toute l'équipe de Radio Foot, bien sûr. Bienvenue à tous dans un Café des Sports aux allures de bar clandestin aujourd'hui, puisqu'au sous-sol, nous organisons le combat du siècle. Il oppose le néo-retraité Didier Drogba à d'autres gloires du continent. La question du jour, la voici. En disant au revoir à l'ancien capitaine des éléphants, l'Afrique a-t-elle dit au revoir tout simplement au plus grand joueur de football de son histoire? À la carte également ce vendredi, Clarence Seedorf, le sélectionneur du Cameroun. Il sera dans les griffes de Rémy N'Gono, mais aussi les grandes affiches du week-end. La finale de la Coupe de la Confédération, celle de la Libertadores ou encore Atlético Barça en Liga. Et puis, bien sûr, rendez-vous en fin d'émission pour nos traditionnels cartons. Radio Foot, le Café des Sports, c'est parti.
Tonight, we are going to witness the most anticipated match in the history. Are you ready? Are you ready?
Il va y aller.
Drogba, Eto'o, Weah, on en oublie, la liste est longue. C'est des footballeurs africains de légende. L'un d'entre eux était encore sur les terrains il y a peu, à 40 ans. Mais Didier Drogba vient finalement de tirer sa révérence. L'ex-capitaine ivoirien, ex-buteur vedette de Marseille et de Chelsea, était-il tout simplement le meilleur joueur que l'Afrique ait jamais connu? Mon cher Franck Simon, la parole est à vous.
Alors évidemment, là, on a cité des noms de grands attaquants, de grands buteurs, grands finisseurs et surtout des gens contemporains. Mais les plus anciens de nos auditeurs pourraient nous renvoyer à Roger Milla, par exemple, le Camerounais, et d'autres, Salif Keita, Laurent Pokou. Ils sont trop nombreux. On pourrait parler de gens dans d'autres régions et moins cotés. On pourrait parler de Mahmoud Al-Khatib, le président actuel du Ali du Caire, qui était un grand buteur aussi pour l'Égypte, etc. Je pense qu'effectivement, Drogba, parce qu'il a représenté par le palmarès, mais sa personnalité aussi, qui a su toucher vraiment les gens par ses actions sur le terrain, ses exploits, mais aussi en dehors du terrain. Et il a su entrer dans le cœur des gens en Europe. En Asie, puisqu'il a joué aussi en Chine, en Amérique, aux États-Unis, où il a joué la MLS avec un club canadien, et il a terminé sa carrière en USL, donc dans les petites divisions américaines. Et puis en Europe, ce parcours, la Turquie, et bien sûr Chelsea, le titre qu'il a en Ligue des Champions. Donc pour ces raisons-là, je pense qu'effectivement, il a un rôle à part. Eto'o a sans doute un talent peut-être plus grand, une souplesse de cheville que n'a pas Drogba, mais Drogba est un immense travailleur.
Eto'o, plus fort que Drogba, ou plutôt l'inverse, Drogba plus fort que tout le monde, plus fort qu'Eto'o, Rémy Ngono.
Je vais d'abord aller dans le même sens que Franck-Simon, c'est-à-dire qu'on va essayer de scinder. On va scinder en deux parties.
Il va vite faire demi-tour, ne vous inquiétez pas, on le connaît.
Parce que dans l'histoire, celui qui est beaucoup plus centré encore dans le football africain, et qui d'ailleurs a été désigné comme le meilleur, c'était Roger Mira. C'est-à-dire que lorsque vous voyez ce qu'il a fait à la Coupe du Monde, à l'âge de 38 ans, il vient au banc, il marque deux buts contre ceci et cela, et puis contre Guita, il marque quand même deux buts en 4 minutes. On a vu comment il a conduit le Cameroun de main de maître jusqu'à l'âge de 42 ans. Ce qui signifie que lui, il est à peu près hors compétition. Oui. Maintenant, nous venons à la nouvelle génération, c'est-à-dire que vous allez voir les gens comme Eto'o et Drogba. Je vais dire quand même que lorsque vous constatez dans chaque club, à Marseille, Drogba y est, il quitte tête haute et il reste toujours une grande mémoire. Vous le voyez par exemple, il se retrouve dans le championnat le plus difficile du monde, c'est-à-dire que la Première Ligue, non seulement là il devient deux fois meilleur buteur, mais il remporte quand même jusqu'à 10 trophées, il faut se le dire.
Dont la Ligue des Champions en 2012, dont il est le grand artisan.
Le grand artisan. Et il part de l'Angleterre d'ailleurs, où il, jusqu'à présent, il est un roi, c'est-à-dire que même en Angleterre, il est resté roi. Lorsque vous le regardez au niveau de la sélection, certes, il n'a pas remporté la CAN, mais avec Drogba, c'est là où la Côte d'Ivoire se hisse à la première position jusqu'à son départ. C'est-à-dire que jusqu'à son départ, même n'ayant pas remporté la CAN, parce que il perd les CAN sur quoi? Sur deux fois les finales au tir au but contre la Zambie et par exemple contre, je crois, l'Égypte également. Oui. Donc là, on ne peut pas dire qu'il n'a pas gagné. Quand on voit qu'il a réussi à ramener aussi la Côte d'Ivoire à une autre dimension, c'est-à-dire que trois Coupes du Monde consécutives où il était leader. Et puis, il faut aussi dire une chose, c'est le seul grand joueur à être dans sa formation sans être contesté. C'est-à-dire, 8 années, voulais-je dire, 8 années consécutives, il a été capitaine et le meilleur des meilleurs. C'est que non seulement lorsque vous essayez de regarder dans ces sélections-là, vous avez Samuel Eto'o, il a 116 sélections, c'est 56 buts. Drogba, c'est 108 sélections, c'est 66 buts. C'est-à-dire que c'est 10 buts de plus que Samuel Eto'o. Donc pour moi, Drogba, pour l'instant, est le meilleur joueur africain.
Alors ça, je m'y attendais pas. J'avoue que je tombe un peu des nues. Xavier Barré, est-ce qu'il a un sens quelque part notre débat?
C'est compliqué de
comparer les époques, les joueurs.
J'écoutais avec beaucoup d'attention ce que disait Franck Simon, bon, Rémy Ngono aussi, mais ça je suis habitué. Mais Franck Simon sur notamment l'histoire des grands footballeurs africains, parce qu'aujourd'hui on a une ère de médiatisation que n'ont pas connu les pionniers du football africain. On parlait de Roger Milla, mais il y en a eu encore avant lui.
Ouais. Donc Rachid Merkloufi, l'Algérien. Par exemple, et d'autres.
Njoléa.
Ouais, voilà. Njoléa pour les Camerounais et d'autres.
Premier ballon d'or africain.
Exactement. Pour m'être occupé à mes débuts à France Football du ballon d'or africain avec Franck Simon, je peux vous dire qu'effectivement, c'est une histoire assez incroyable avec des parcours qu'on peut plus avoir aujourd'hui. Maintenant, moi, ce que je retiens de Drogba, est-ce que c'était le plus grand? Encore une fois, c'est très compliqué de comparer.
Il a un
palmarès
exceptionnel, mais Eto'o aussi. Et je vois sur la feuille de Xavier, je vois que Xavier a coché le nom d'Abedi Pelé. Question talent, Abedi Pelé, c'est fantastique. Enfin, pour moi, c'est presque une fusion de Drogba et de Eto'o, quoi, parce qu'il avait tout sur un terrain.
Mais maintenant, moi, ce que je retiens, et j'écoutais ce matin en podcast votre émission d'hier, qui était vraiment très riche, avec notamment l'ami Philippe Doucet et puis également Bruno Constant.
On a vraiment
qui,
détaillé la carrière,
voilà,
le parcours de Didier Drogba.
Voilà, c'était une émission extrêmement intéressante. Et donc, ce que je retiens surtout, c'est l'homme Drogba. Parce que là, je pense que lui, il a dépassé le statut de footballeur.
C'est vrai.
Et à ce niveau-là, je pense qu'il peut arriver au niveau où est aujourd'hui George Weah, dans un complexe plus difficile.
Non. George Weah qui est chef d'État.
Il peut arriver au niveau symbole, en tout cas. Il peut arriver
Alors après, le contexte ivoirien est différent évidemment du contexte libérien où il y a eu une guerre terrible, même si la Côte d'Ivoire a connu aussi un conflit très très meurtrier aussi il y a quelques temps. Mais voilà, je pense qu'il a dépassé ce statut de footballeur pour être un vrai symbole national pour les Ivoiriens.
On n'a pas entendu Alejandro Valente.
Bah moi j'aime pas trop ces genres de comparaisons, c'est comme l'histoire, est-ce que Messi est meilleur que Maradona ou vice versa, je me sens pas très à l'aise. Moi je suis un peu plus âgé que vous, donc j'ai des souvenirs peut-être
à peine
un petit peu plus anciens. Moi l'équipe qui m'a le plus touché, c'est quand même le Cameroun en 90, et donc j'ai plutôt les souvenirs des joueurs de cette époque, et j'en citerai notamment quelqu'un qu'on ne cite jamais parce qu'il est pas attaquant, il joue pas dans un poste de joueur de champ, mais Joseph Antoine Bell, par exemple, mérite aussi d'apparaître.
Mais qui n'a pas joué la Coupe du Monde 90, attention.
Mais je dis des joueurs de cette époque qui m'ont beaucoup marqué également et qui ont permis au football africain, qui était pratiquement inexistant sur la scène internationale, d'accéder enfin à une notoriété qui dépassait celle de l'Afrique.
Alors pour ne rien vous cacher, on le sait quand on pose ce genre de débat que c'est un peu caricatural, mais ça permet justement de citer certains héros, peut-être un petit peu trop oubliés du football africain. C'est aussi pour ça que c'est utile. Rémy Ngono, le mot de la fin.
Le mot de la fin, je m'oppose à Franck Simon qui a voulu tacler Xavier Barré, que j'aime bien tacler. Mais Xavier Barré a souligné quelque chose tout de suite, c'est que Didier Drogba pouvait y arriver. Et je peux vous dire, quand on regarde la personnalité, ce n'est pas parce que Georges Weah a réussi à être chef de l'État que Didier Drogba ne l'est pas, parce que je ne peux pas le devenir. Je peux même vous dire qu'il est beaucoup plus charismatique que Georges Weah. Je m'explique. Quand vous regardez la crise ivoirienne naît des pro-Bagbo et des pro-Ouattara, c'est-à-dire que c'est très très compliqué. Or, en Côte d'Ivoire, il fallait prendre position. Didier Drogba est devenu le symbole de la réunification et de celui qui pouvait être le seul sapeur-pompier, puisqu'il est nommé dans le comité de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire. Et il va y parvenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pro-Bagbo ne peut pas insulter Ouattara, un pro-Bagbo ne peut pas insulter Drogba, tout comme un autre pro de l'autre côté ne peut pas l'insulter. Première des choses. Deuxième des choses, il est d'une générosité hors norme. Parce que vous allez vous rendre compte que il est le premier à donner, par exemple, plus d'un million et demi d'euros pour que on crée un hôpital pour les enfants, sans pour autant oublier que sur le plan de la reconversion, il faut déjà savoir que il a, par exemple, un club de première division à Abidjan actuellement, et même sur le plan financier, il a préparé sa carrière. Le Sunday Times dit quand même que rien que sa fortune immobilière est estimée à 26 millions d'euros. Donc, c'est un monsieur qui a préparé la suite de sa carrière.
Voilà, c'est le plus grand parce qu'il a beaucoup d'argent. Si je résume l'argumentaire de Rémy Ngono, je plaisante. Je vous caricature, mon cher Rémy.
Il est généreux.
Alors, on parlait de grandes vedettes, Drogba, mais pas que. Le football se joue sur un terrain, mais c'est aussi une affaire de bande touche. Et passer de l'un à l'autre n'est pas simple, n'est pas Zidane qui veut. Exemple avec nos amis Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. Les deux Néerlandais étaient de très grands joueurs aussi. Leur reconversion, elle est un peu plus difficile. Aujourd'hui, Seedorf est le sélectionneur du Cameroun, champion d'Afrique en titre. Kluivert est son adjoint. Bilan: une victoire face au Malawi, 2 nuls face aux Comores, 2 nouveaux face au Malawi, 2 défaites à l'occasion de la trêve internationale qui vient de s'achever. La première, c'était face au Maroc vendredi dernier, première défaite de l'histoire du Cameroun face au Maroc. La deuxième face au Brésil cette semaine, à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations qui pour l'instant doit toujours avoir lieu au Cameroun. Faut-il s'inquiéter pour les Lions indomptables, Franck Simon?
Oui.
C'est clair. Vous pouvez développer.
Il faut s'inquiéter. Depuis que le nouvel encadrement technique est en place, donc Seedorf, Kluivert, Joël et Palais, parce que faut citer aussi, et puis tous ceux qui sont sur le banc, Boukar Alioum, qui malheureusement n'a même, je crois, pu faire le voyage à Londres puisqu'il n'a pas eu le visa. C'est pas un Cameroun très convaincant dans le jeu. C'est un Cameroun qui tâtonne, c'est un Cameroun qui nous paraît déséquilibré, c'est un Cameroun où on a cherché à un moment donné à écarter certains joueurs qui ont été champions d'Afrique il n'y a pas très longtemps.
Alors vous pensez aux Chinois, entre guillemets,
notamment, qui sont
Moukandjo le capitaine, voilà, qui a pris sa retraite internationale, Bassogog, qui a finalement été rappelé.
Voilà, Bassogog qui a été rappelé. Alors, ils ont fait appel aussi à quelques nouveaux, ils ont rappelé des anciens. Jean-Armel Canabic, pas plus tard que lors du match contre le Brésil à Londres. On a vu apparaître Jean Dofoux, que je connaissais pas, qui joue à Sochaux en Ligue 2 française. Tout ça me laisse franchement très perplexe. Je vois pas trop quelle est la direction. Et voilà, c'est pour toutes ces raisons que je suis inquiet pour une phase finale, surtout pour défendre un titre.
Xavier Barré.
Moi, je trouve que c'est un peu léger de se réjouir du Cameroun parce qu'ils ont fait une petite défaite contre le Brésil, un Brésil qui était en représentation et qui a pas forcé. Donc, je serais tenté de dire que c'est un moindre mal. Maintenant, le problème du Cameroun, c'est qu'effectivement, ils sont champions d'Afrique en titre, mais ils l'ont été avec un heureux concours de circonstances, avec une équipe extrêmement combative, avec une équipe qui avait peu de talent,
enfin,
mais
c'est
qui avait
un concours de circonstances de gagner le titre. Xavier, souviens-toi du parcours.
C'est
quand
pas
même
le Cameroun le plus flamboyant.
Voilà. Je me suis peut-être mal exprimé. Je vais préciser. Voilà. C'était une équipe effectivement
qui faisait suivi. Crois-moi, c'était
une équipe de guerriers, une équipe de combattants. Voilà. C'était un commando.
C'est aussi les valeurs du football camerounais qui a allié jusqu'à présent et technique et effectivement ces valeurs-là, ça a marché quoi.
Oui, ça a marché sur ce coup-là, mais ça.
C'est pas le plus talentueux, ça c'est vrai.
Voilà. Marche pas vraiment sur la durée. On avait vu cette équipe-là ensuite être très décevante lors de la Coupe des Confédérations. Hugo Broos a été viré. Et depuis, ben, effectivement, Kluivert et Zeedorf essayent de recomposer. Mais ils n'ont aucune expérience de l'Afrique. Les expériences qu'ils ont eues en tant qu'entraîneur ou directeur technique n'ont pas été flamboyantes. Moi, j'avais beaucoup de doutes sur leur nomination et ça se confirme.
Alejandro Valente, vous êtes un défenseur de Zeedorf et bien sûr après il y aura
forcément un défenseur, mais je dis il faut lui laisser un peu de temps parce que son objectif c'est de bien préparer la CAN. Donc lui il n'est pas concerné comme d'autres par ces éliminatoires qui ont cours actuellement.
Pour l'instant,
le statut du Cameroun il est quand même voilà, il y a une épée de Damoclès. On n'en dira pas plus. Les auditeurs, je pense, connaissent.
En tout cas, sa mission c'est de préparer l'équipe pour la CAN. C'était pas forcément d'avoir tout de suite une équipe compétitive. Donc qu'il tâtonne, qu'il fasse des tests. Ça me paraît normal. J'ai regardé les matchs contre le Brésil. Il y avait quand même une équipe du Cameroun qui jouait son jeu, qui a eu ses occasions, qui a souffert par moments, c'est vrai, qui a eu un grand tondoi pour les sauver à plusieurs reprises, mais qui a tenté sa chance avec beaucoup des têtes qui sont pas celles qu'on a l'habitude de voir. Il n'y a plus Moukanjo, il n'y avait pas Aboubakar, Bassogog, il joue peu, donc on voit apparaître d'autres joueurs, Toko Ekambi en capitaine, Choupo-Moting, Baouken, etc.
Il y a 14 sur 23 champions d'Afrique qui sont, enfin par rapport aux 23 champions d'Afrique, il y en a 14 nouveaux quand même, donc c'est une équipe qui a été largement renouvelée.
Voilà, que ça t'étonne, ça me paraît naturel, et qu'il fasse des essais, c'est intéressant. C'est Jean Dofoux, par exemple.
C'est pas convaincant quand même.
C'est un joueur qui a été aligné face à Neymar. Il y a quand même parfois des décisions intéressantes et je pense que la présence de Clarence Seedorf peut aider quand même le Cameroun à avoir des adversaires des qualités. C'est le cas du Brésil. Toutes les équipes africaines ne réussissent pas à organiser un match contre le Brésil et probablement l'influence de Clarence Seedorf a pesé dans ce choix-là.
Il est prêt à rugir. Rémi Ngono sur Clarence Seedorf.
Première des choses, je serai sur la même lignée que mes collègues parce que le choix de Clarence Seedorf s'inscrit dans le même choix tel que Denis Lavagne. On ne sait pas d'où il sort. Alors que on avait une équipe de techniciens qui avait quand même une certaine expérience et qui pouvait connaître ce qui se passe en Afrique, mais j'ai quand même constaté un certain embryamini autour de ce qu'on peut appeler le cas Seedorf, parce que je ne sais d'ailleurs pas comment est-ce que les joueurs des palais et tout le reste se retrouvent là. Ça devient finalement un clan qu'on attribue à Samuel Eto'o. Et ça, ce n'est pas une très très bonne chose lorsqu'on sait déjà que même la présence de Samuel Eto'o, lorsqu'il était capitaine au sein des Lions Indomptables avec les Rigobertson, ça n'avait pas bien marché. Et aujourd'hui, ça a encore commencé, et parce que j'ai vu certains joueurs qui ne mériteraient pas d'être sélectionnés. Clarence Seedorf s'est autorisé à aller prendre certains joueurs à gauche et à droite qu'on ne connaissait pas dans des profondeurs, des rez-de-chaussée du championnat camerounais qui lui-même est totalement au point mort bas. Donc on ne sait pas sur quels critères est-ce qu'il a fait cela. Maintenant, quand on essaie de voir, est-ce qu'il a une ligne directrice en ce qui concerne l'équipe nationale? Que non, parce que tous les matchs que je vois des bricolages à l'en emporte-pièce, que ce soit contre les équipes qui ne valaient pas grand-chose comme les Comores, je n'ai pas vu un fond de jeu. Contre le Maroc, ça a été une catastrophe. Et aujourd'hui, on s'est dit que il s'en est fallu d'un quart de poil de mollet de fourmi pour qu'on puisse s'en sortir contre le Brésil. Mais sauf que ce Brésil n'avait pas aussi Neymar. Sauf que ce Brésil ne voulait pas jouer. Sauf que ce Brésil s'amusait. Donc, quand je vois ce qui est en train de se produire par rapport à ce que Seedorf apporte, eh bien, je trouve que c'est de l'amateurisme lourdeau parce qu'il n'avait pas cette carrure, cette expérience. Eh bien, on dit que non, c'est un entraîneur en devenir, mais il y a un proverbe africain qui dit « Toutes les fleurs ne deviennent pas des fruits ».
Le voilà rhabillé pour l'hiver, comme vous, mon cher Rémi. Et pour le Cameroun, on attendra de connaître la décision finale de la CAF concernant le pays hôte de la CAN 2019. C'est imminent. Allez, un coup d'œil à présent, et même un peu plus que ça sur les affiches du week-end. Les amoureux du football vont se régaler et voyager, surtout puisque nous avons sélectionné pour vous trois grands matchs à suivre, trois grandes rencontres. Une en Afrique, une en Europe, la dernière en Amérique du Sud. Honneur à l'affiche africaine. Première manche de la finale de la Coupe de la Confédération ce dimanche. La SV Club de Kinshasa se déplace sur le terrain du Raja Casablanca Vita Club à la recherche, Franck Simon, d'une deuxième victoire en Coupe d'Afrique après une Ligue des Champions remportée en 1973. Il y a eu deux finales également de Ligue des Champions. 1981, ça c'était loin, mais 2014, ça c'est très proche.
Hein, défaite ils n'avaient pas perdu. Sétif. Ils n'avaient pas perdu en fait.
Enfin, défaite.
Il y avait eu deux matchs nuls, c'était contre Sétif et Sétif avait emporté parce qu'ils avaient mis deux buts à Kinshasa.
Le Raja Casablanca dimanche, première manche donc au Maroc. Quel piège à éviter selon vous pour la SV Club de Florent Ibégué?
Le piège à éviter, c'est d'avoir trop confiance en soi. Parce qu'ils les ont battus. Il faut savoir que c'est des équipes qui étaient ensemble dans la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Ils se sont joués déjà deux fois. Ils se sont joués en mai avant la Coupe du Monde en Russie. Il y avait eu match nul à Casa et ils se sont joués ensuite en août pour conclure le groupe. Et le V-Club, les Banavéa, l'avaient emporté 2-0, avec des buts de Fabrice Ngoma et du buteur maison Jean-Marc Makoussou Mundele. Donc, ils peuvent arriver avec cet excès de confiance qui peut être un problème. Et puis le Raja aussi est une équipe très solide, une équipe très à l'aise devant son public. Son public, on connaît, hein, un public très très agité, très très supporter, un bon public aussi du Raja. C'est pour ça que comment il faudra pour eux limiter la casse. En face, ils ont une très belle équipe avec une ossature dont on a vu les bons résultats pendant le Chan. Rappelons que le capitaine Badr Benoun, le capitaine défenseur central du Raja, c'était celui qui était aussi dans la charnière centrale au Chan remporté par le Maroc. Donc c'est une très belle affiche. C'était l'affiche rêvée d'ailleurs de cette compétition. Mais pour ce match aller au stade Mohamed V, le V-Club a intérêt d'y aller à tâtons. De plutôt procéder par contre et puis voir aussi compter aussi sur la fraîcheur. Est-ce que Florent Ibengué, qui est aussi le sélectionneur de la RDC, aura retrouvé un peu de fraîcheur sur le plan psychologique? Vous savez que c'est compliqué de jongler, de passer d'une casquette à l'autre. Pour ces raisons-là, je me dis que on partirait plutôt sur une petite victoire du Raja.
Et il reste Florent Ibengué sur un derby congolais agité, surtout
et la piscine de Brazzaville
pluvieux, exactement, voilà. Derby pluvieux, derby pas forcément plus heureux. Xavier Barré, que pensez-vous de l'analyse de Franck Simon? Est-ce qu'effectivement Franck Simon, c'est la bible du maître mot?
C'est la bible du football africain, donc je vais pas le contredire. mais ce qu'il faut rappeler, souci. C'est que le match aller, en plus, je crois, le V Club l'avait fini à 10, le match, ouais. Contre le Raja Casa. Donc c'est vrai qu'ils ont un avantage psychologique sur ce point-là, c'est certain. Maintenant, on dit c'est jamais la même situation d'un match à l'autre.
Et là, c'est une finale.
Voilà, et là, on est en finale et on a un Raja Casa qui, en fait, a repris de la confiance par rapport au V-Club avec cette qualification jusqu'en finale. Et notamment en demi-finale, ils ont quand même éliminé Enyimba et ils ont gagné les deux matchs. Donc, ce sera une finale, donc une finale extrêmement serrée avec peut-être justement l'avantage au Raja qui, du coup, n'étant pas favori, a rien à perdre.
Ouais, puis un bon entraîneur aussi hein, sur le banc du Raja,
l'Espagnol
Garrido, qui a remporté la Coupe de la Confédération. C'était en 2014, dans la même année où le V-Club...
Avec le Al Ahly du Caire.
Voilà, avec le Al Ahly, c'était contre le COE Sport de San Pedro, le club ivoirien qui depuis a chuté en D2 local.
Rémi, Alejandro, un avis sur les chances de V-Club dimanche?
Je crois que si même on se base sur les entraîneurs actuellement, je crois quand même que Florent Ibenge, quoi qu'on dise, a aussi une très bonne carte à jouer et de surcroît, il a des éléments clés pour pouvoir se défaire de l'équipe marocaine. Moi, je crois que lorsque j'ai essayé de regarder les deux matchs, sur le plan tactique, sur le plan offensif, le Vita Club a beaucoup plus de qualité que cette équipe marocaine qui, certes, peut jouer en contre-attaque, mais s'il fallait aller sur chaque secteur, moi, je donnerais la victoire au Vita Club. Mais comme on dit, c'est une finale qui est en train de se jouer. Et aussi, vous pouvez me dire que le Raja actuellement est sur une bonne dynamique. Mais allez faire cette rencontre que les joueurs congolais ont pu livrer, par exemple à Brazzaville, dans une piscine. Il fallait avoir un mental d'acier. Et j'ai vu comment
est-ce que... Mais c'est pas les mêmes joueurs. Oui. C'est pas les mêmes joueurs, pour le coup.
Mais cependant, c'est Ibenge qui était là. J'ai vu comment est-ce qu'ils se comportaient sous la pluie. Parce qu'ils étaient totalement démobilisés.
Mais là, il y aura peut-être pas de pluie. Et surtout, t'as une équipe du V-Club. J'entends bien ce que tu dis. Et je serais content que le V-Club remporte ce trophée, franchement. Parce que c'est ceux qui ont pratiqué le plus beau football. Voilà. C'est l'équipe qui a pratiqué le plus beau football, certainement cette année, avec l'Espérance de Tunis. Mais, ils voyagent très mal. Ils ont du mal ailleurs que chez eux. Alors chez eux, parce que là, on parle de la finale aller. Et effectivement, le Raja, quand même, chez lui, avec ce public, peut faire comme l'a fait l'Espérance contre le Herli et leur mettre un but ou deux. Attention, parce que le match retour au Stade des Martyrs dans quelques jours, ça sera une autre limonade. Et là, je pense qu'effectivement, tout ce talent que tu décris, Mundele, Moloko, Ducapel, etc., tous ces garçons-là, ils vont frapper. Glody aussi, le latéral gauche qui a été élu meilleur joueur du championnat en RDC, c'est certain que devant leur public, ils vont tout arracher. Mais en attendant, il faut quand même se coltiner les aigles verts du Raja au Mohamed V, et ça, c'est autre chose.
Ce sera dimanche, coup d'envoi 19h, temps universel.
Je vois deux éléments qui peuvent favoriser quand même le Vita. Un, Franck dit il va pas pleuvoir peut-être, mais en tout cas il a beaucoup plus cette semaine.
Pas autant que Cabraza.
Il a beaucoup plus cette semaine. On a vu des images du terrain des jeux. Il est quand même très lourd et très embourbé. C'est qui favorise souvent les équipes qui se déplacent, qui a priori vont essayer de jouer leurs résultats. Ça empêche en tout cas ça gêne plutôt les équipes qui vont essayer d'aller chercher la victoire. Et l'autre c'est l'arbitrage, car on a vu l'influence que ça pouvait avoir en Ligue des Champions. Là ils sont choisi un très bon arbitre, c'est Bakary Gassama,
le Gambien. Ouais.
Donc c'est une bonne nouvelle. Avec l'assistance de l'arbitrage vidéo, on peut penser que ça va permettre de résister quand même à l'ambiance qui s'annonce quand même très chaude,
très chaude,
du côté marocain.
Et ils ont eu le temps de s'adapter au contexte local. Les Congolais, ouais, ils sont arrivés en début de semaine, exact. Et ils ont même adapté l'horaire des entraînements à l'horaire du match. En fonction de l'horaire du match. Donc il y a un vrai travail de préparation effectué par Florent Ibenge et son staff. Donc match aller. 19h, temps universel dimanche.
Un dernier mot, c'est aussi un choc d'attaquant, puisque d'un côté, t'as Makusu Mundele pour le V-Club, qui est meilleur buteur avec 10 buts dans cette compète, mais voilà. 16 en tout, puisqu'il avait brillé aussi en Ligue des Champions avant que le club soit reversé. Et en face, Mahmoud Ben Alib, qui est aussi, lui, comme meilleur buteur de la compétition pour le Raja.
Et le match retour, ce sera la semaine prochaine pour peut-être voir la SV Club succéder au palmarès au tout-puissant Mazembe, double tenant du titre, l'autre grand club congolais. On va le dire comme ça, l'hymne des Matelassiers qui retentira au Wanda Metropolitano de Madrid. Demain, Atlético Barça, énorme choc à suivre en Liga à l'occasion de la 13e journée de ce championnat d'Espagne. Un duel entre des équipes qui sont calées dans les premiers rangs. Comment vont-elles rapidement, Alejandro Valente? Tout le monde sera là demain pour ce choc?
Pas tout le monde, parce que par exemple, Rakitic va manquer du côté du Barça. C'est quand même une grosse absence du côté Barcelone, il est suspendu. Mais bon, globalement, on peut dire que les acteurs sont là, mais les deux équipes ne sont pas au mieux. L'Atlético, dernièrement, arrive à gagner les matchs, mais souvent, dans les derniers instants, on voit que Diego Costa a du mal à marquer, que la défense fonctionne moins bien que dans les passés. On se rappelle qu'il n'y a pas longtemps, ils ont encaissé quand même 4 buts à Dortmund. Donc c'est un Atlético mais qui quand même tient la route globalement. Et un Barça qui n'a pas trouvé encore totalement son équilibre. Disons que en 4-3-3, il a du mal parce que les milieux de terrain, il n'y a plus Iniesta, les joueurs ont pris Busquets, ça a pris un peu de l'âge, etc. Donc le Barça est plus équilibré quand il joue à 4 milieux plutôt que 3. Mais c'est quelque chose qui a du mal à passer. Et donc parfois ils font le choix de jouer à 3 milieux et ils sont parfois débordés.
Donc ça va être un bon test, si je suis ce que dit Alejandro Xavier Barré. C'est un bon test pour les deux équipes.
Un bon test exactement pour les deux équipes. Vous avez très bien résumé la situation, Hugo. Parce que cette équipe du Barça, elle est leader, mais elle n'a pas toutes les certitudes. Rakitic suspendu, Umtiti, on ne sait pas s'il sera opérationnel, et c'est vrai que sans lui
Coutinho
la défense...
Coutinho non plus, on ne sait pas s'il sera opérationnel.
Philippe Coutinho non plus, et du coup on se retrouve avec l'énigme d'Embélé qui est revenu de l'équipe de France et qui a repris l'entraînement avec le Barça, mais qui n'avait été écarté lors des précédents matchs puisqu'il avait séché les entraînements sans prévenir. Donc, comment va jouer le Barça? On peut imaginer que Arturo Vidal, le Chilien, sera titulaire. D'ailleurs, il est rentré du Chili où il a livré 2 matchs amicaux. Il était au repos parce qu'il a débarqué de l'avion à 6h du mat à Barcelone. Et à 11h, il était à l'entraînement tellement il a envie de jouer et surtout de saisir sa chance, lui qui est remplaçant depuis le début de saison. Donc du côté du Barça, il y a des incertitudes, mais il y a un effectif conséquent qu'il n'y a plus à l'Atlético de Madrid. Je crois qu'il y a 5 blessés à l'Atlético. La charnière, Godín Jiménez, les deux Uruguayens, elle jouera pas. Savic est incertain. Il y a également
Juanfran est absent aussi.
Juanfran et au milieu de terrain Coquet également qui est absent. Oh, donc ouais. Ça fait la moitié de l'équipe de l'Atlético qui est sur le flanc. Là-dessus, et le jefe Alejandro Valente l'a très bien expliqué, Diego Costa est dans une période de doute, il a plus marqué depuis 18 matchs en Liga et accessoirement Griezmann lui ne marque jamais contre le Barça en championnat. Donc même ça va être un test très important, mais moi je vois quand même un petit avantage au Barça.
Et je suis sûr que Rémy Ngono n'est pas d'accord avec vous.
Je ne peux pas être d'accord.
Évidemment.
Je ne peux pas. On l'aurait parlé. Parce que c'est bien de citer les joueurs. C'est vrai que la charnière d'Atlético, quand elle manque comme ça, ça peut faire des sueurs froides. Mais je voulais quand même rappeler que cette équipe du Barça aujourd'hui, qui est première de ligue, de la Liga.
Alors, à l'heure où on fait cette émission, elle est leader. Il y a un match vendredi soir qui peut changer un petit peu cet état de fait. Donc ne nous attardons pas trop sur le classement. Donc, c'est un duel au sommet. Voilà.
C'est un duel, mais je vais dire que au regard de la dernière prestation du Barça à domicile, c'était encore beaucoup trop inquiétant. C'est-à-dire que d'être à la portée et d'une telle frilosité, d'avoir une telle porosité défensive, c'est-à-dire que vous concédez près de 18 tirs à domicile, c'est quand même inquiétant. Et quand on me dit que, bon, au niveau du milieu de terrain, aujourd'hui du Barça, le Barça n'a pas de milieu de terrain, c'est qui puisse véritablement garder le ballon. Parce que le Barça, c'était le milieu de terrain qui confisque le ballon et qui pouvait empêcher à l'équipe adverse de pouvoir créer le danger. Or, aujourd'hui, ce Barça-là ne parvient pas à contrôler le milieu de terrain. Ce qui signifie qu'il faut des éléments défensifs qui soient là. Et ce Busquets, qui est devenu presque un peu vieillissant, un peu fatigué, un peu époumoné, ne parvient plus à colmater les brèches. Donc, quand on me dit que, oui, Arturo Vidal, c'est bien vrai, il a voyagé, il a fait tout ce que vous pouvez le dire là, et d'ailleurs, il est arrivé aux entraînements, mais les entraînements d'aujourd'hui, à peine il a voulu les faire, il s'est arrêté, il était essoufflé. Est-ce qu'il va se recharger les batteries pendant la nuit? Osons espérer.
Donc, c'est pas le genre de gars qui se planque.
Il dit oui, je suis chaud pour jouer. Mais là, à l'entraînement, il n'était pas chaud pour s'entraîner. Donc, c'est pour ça que je dis que ce match-là peut être beaucoup compliqué parce que Atlético, aujourd'hui aussi, exactement comme avec Dortmund, on a vu qu'ils avaient des potentialités, des possibilités offensives pour inquiéter le Barça qui ne répond plus physiquement, qui ne répond plus au niveau défensif. Bon, c'est vrai. Si le Barça jouait par exemple en première ligue, le Barça serait peut-être le cinquième, hein, parce que Arsenal c'est 24 points comme le Barça qui est premier. Donc ils ont quand même perdu beaucoup de points parce que justement ils ne parviennent plus à trouver cet équilibre.
Heureusement qu'on parle pas du Real Madrid aujourd'hui. Hein.
Exactement. Alors j'ai quand même un peu l'impression à vous entendre que c'est un choc, mais c'est pas ça. Exactement la même chose que les années précédentes.
Bah ouais, c'est ça.
Serait presque décevant.
Mais je suis d'accord avec vous Hugo. J'ai l'impression qu'ils nous vendent une fausse affiche là en fait.
Effectivement.
Alors, ouais. Ça va pas bien. J'ai la rapide du côté de l'Atlético Madrid. Et j'ai foi qui pas loin du voilà, c'est des vieillards. Mais ça reste une affiche est quand même exceptionnelle. T'es d'accord quand même, Rémi?
C'est un peu un remake de France-Uruguay qu'on a vu il y a quelques jours, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont
un peu sur le flanc. Alors, on espère pas pour nos auditeurs fans du championnat espagnol. Mais ça sera un tout petit peu plus intéressant.
Mais Hugo, rien que pour les deux philosophies, l'ADN n'est pas exactement la même du côté du Barça, on le sait, et du côté de l'Atlético avec Simeone. Rien que pour ça, ça vaut son pesant. Faut regarder ce match, faut y aller, faut s'y intéresser. Et puis peut-être qu'on aura une heureuse surprise, peut-être qu'on aura un Atlético effectivement qui saura les piquer, qui saura les aiguillonner comme ils sont capables aussi de le faire. Pourquoi pas? Ça sera pas forcément un match à sens unique.
Oui, mais disons ça. Mais
quand je vous écoute, j'ai l'impression que c'est à sens unique.
L'Atlético, de toute façon. Attends, on n'a pas dit que c'est un match à sens unique, mais on a dit que c'est un match qui n'est pas
maintenant
exactement
que tu sur ses propos.
Attends, mais ce match ressemble à quoi? Ça ressemble à un gibier qui est constitué uniquement d'os. Donc justement, il y a un proverbe africain qui dit que même le chien n'aime pas un os sec.
Allez, tout dans la mesure. Ramenez un petit peu de rationalité dans cette émission.
Bien sûr, c'est les deux équipes actuellement en tête de la Liga. Bon, vous avez rappelé qu'il y aura entre-temps un match en retard,
c'est
super. Et c'est surtout les deux équipes qu'on considérait en début de saison comme les favoris pour le titre. Il faut le rappeler, toutes les interrogations qui entouraient le Real Madrid suite à l'arrêt de Zidane au départ de Cristiano Ronaldo font que l'Atlético et le Barça se retrouvent de fait favoris de cette Liga. Le Barça en tant que tenant du titre et l'Atlético en tant que challenger numéro 1. Alors effectivement, ils ont des blessés. Effectivement, je pense que l'effectif de l'Atlético est un peu en dessous. Mais il va y avoir des matchs dans le match particulièrement intéressants. Regardez, Raymond Godot évoquait Sergio Busquets. Sergio Busquets, c'est 500 matchs de Liga d'ailleurs ce samedi soir.
Il a une jolie presse là avec les statistiques.
Mais je l'ai même mis sur Twitter pour ceux qui veulent avoir cette magnifique page du quotidien sport. Donc 500 matchs de Liga pour Sergio Busquets et en face il va avoir Rodrigo qui est un peu la révélation de ce début de saison à l'Atlético et qui est un peu son successeur désigné pour l'équipe d'Espagne. Donc il va y avoir en plus des matchs dans le match très intéressants.
Et Griezmann qui aurait pu jouer pour le Barça et finalement il va jouer pour l'Atlético.
Voilà. Merci Xavier de nous vendre enfin cette affiche.
Entre Griezmann et Messi,
pratiquement jamais contre le Barça, aucun but en Liga.
Il a marqué trois fois.
À Messi qui marque beaucoup contre l'Atlético.
28 buts, c'est ça, Xavier?
Oui, alors 28 buts de Messi contre l'Atlético, c'est le deuxième meilleur client de Messi en Espagne après la Séville. Séville, c'est 30, il a marqué 32 buts. Et avant, je vous le dis quand même en passant comme ça,
il y a quand même un bon
pour que
Raymond Godot
puisse mettre à jour ses statistiques contre le Real Madrid, il a quand même marqué 26 buts, Léo Messi. Et c'est vrai que Griezmann, lui, il a cette malédiction à vaincre. Et cette année, il a plutôt réussi à vaincre les malédictions jusqu'à présent, donc il y a beaucoup d'intérêt autour de ce match.
Alors, Atlético-Barça.
Atlético-Barça n'a que des malédictions.
Atlético-Barça, laissez-moi enchaîner, mon cher Rémi. Atlético-Barça, donc 19h45, temps universel demain. Le problème, c'est qu'il sera en concurrence avec un match qui débutera 45 minutes auparavant, à 19h, temps universel, sur un autre continent.
En Argentina, este sábado, hay balotage.
Hay balotaje en el fútbol. Hay balotaje porque empataron en primera vuelta y la copa está para cualquiera. AFA, amantes del fútbol argentino.
Le super classico des super classicos, River Boca, manche retour de la Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des Champions d'Amérique du Sud, de partout à l'aller sur la pelouse de Boca, donc dans un coin de Buenos Aires, on va jouer dans l'autre coin. Je me suis trompé sur l'horaire du match, Alejandro, ce sera à 21h heure française, 20h temps universel, c'est pas très grave. On encourage ceux qui aiment le football sud-américain à regarder.
Ça vaut la peine.
Ça vaut la peine, pensez? Oui. De partout à
pour
l'aller.
Pour l'ambiance ou pour le foot? Parce pour que tout. La finale aller.
La finale aller était pas mal, je trouve. Il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a eu des moments de jeu, surtout du côté des rivières, il faut bien le dire. Mais qui était intéressant. Là, ça va être probablement plus chaud parce que là, à l'aller, c'est vrai que beaucoup de joueurs étaient sous la menace d'un carton jaune. Donc, ils se sont dans l'ensemble bien tenus. Là, je pense que ce sera peut-être un peu moins le cas. Et puis, la pression va être énorme. Le stade monumental est beaucoup plus grand que la Bombonera.
Il n'y aura pas de supporters de Boca comme il n'y avait pas de supporters de River. C'est pas grave. Les supporters de Boca, ils se sont quand même fait entendre dans le cadre de cette manche retour. Parce que figurez-vous que quand Boca Junior s'entraîne dans son stade, la Bombonera, Et ben le stade est plein, tout simplement, avec des supporters comme pour un match qui viennent chanter, encourager des joueurs en train de s'entraîner, en train de faire leur footing.
Il y avait même un millier de supporters qui n'ont pas pu rentrer, qui sont restés à l'extérieur parce qu'il y a.
Mais est-ce qu'ils les font payer ? Ça, c'est. J'aurais bien savoir ça.
Non.
Est-ce qu'ils font, ils les font pas payer ?
Les deux clubs en fait ont choisi des stratégies opposées. C'est les Boca qui va jouer face à un public adverse, à essayer de faire un banc de foule, de se rassurer. Et c'est vrai que les matchs allés a été compliqué, etc. Donc ils ont choisi cette solution qui peut être intéressante, mais qui peut aussi mettre un peu trop de pression probablement sur les joueurs. River a choisi plutôt de s'isoler, de s'éloigner un petit peu de foules et de préparer ce match dans la sérénité.
C'est entre Atlético Barça et River Boca, vous choisissez quoi ? Votre cœur balance, messieurs ?
Moi, c'est plutôt l'Europe. J'ai suivi le match aller de Boca River.
Alors, ouais. Xavier, vous.
Bah, moi, je vais pas me mettre à dos le Jefe, donc je prends River.
J'en étais sûr, vous savez, légitimiste.
Non, mais c'est vrai que River, il y a une côté de beau jeu, de qualité du jeu. Alors, il y a peut-être un peu moins de passion, parce que c'est vrai que Boca, c'est un club plus populaire, avec ce public dans ce stade qui est petit, qui est tout proche, alors que le Monumental, il y a un peu comme une piste d'athlétisme autour, et donc le public est plus loin. Donc, il y a plus d'intensité, plus d'authenticité peut-être à Boca. Mais à River, il y a une culture du beau jeu, une tradition du beau jeu, que le Jefe pourrait nous faire une émission spéciale là-dessus, qui remonte aux années 50. Et donc, bah, moi, j'aime bien le beau jeu, hein, donc je préfère un peu River.
Le choix du cœur pour vous, Rémy Ngonou.
Ah, bah, d'un prendre le contre-pied. D'un côté, il y a les millionnaires. Qui sont les millionnaires ?
Bah, c'est River. Mais vous savez, je vais corriger je vais corriger une information qui a tendance à circuler. On dit River Plate, c'est les millionnaires. On les appelle les millionnaires parce qu'ils sont dans des quartiers riches. Pas du tout. On les appelle les millionnaires parce que dans les années 30, River est allé acheter un joueur qui s'appelait Bernabé Ferreira, qu'on appelait les mortiers de Rufino, qui avait une frappe de mule. Il est allé l'acheter à Tigré, il a payé une somme élevée pour l'époque, et du coup, il y a eu ce surnom, les millionnaires. Mais River est aussi populaire que Boca dans toutes les classes sociales, et par exemple, le supporter numéro 1 de Boca, c'est un président très libéral de l'Argentine, fils d'un grand patron multimillionnaire, donc tout ça est très relatif.
Voilà, la deuxième manche du Super Classico, c'est ce samedi, donc à 21h heure française, 20h temps universel, on y revient demain dans Mondial Sport, et bien sûr, lundi dans Radio Foot.
Carton jaune.
Il y a un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Ah oui, comment refermer un café des sports si ce n'est par les traditionnels cartons, et un jeune stagiaire de l'équipe des sports de RFI nous a rejoint pour distribuer son carton. Samuel Marot. Bonjour Samuel.
Bonjour Hugo.
Quel est votre carton? Surtout, de quelle couleur est-il?
Alors, il est vert et il est. Je vais rejoindre Xavier Barrère pour ça et je vais mettre un carton vert à Rodrigo Hernandez. Parce que c'était cette semaine, il a disputé avec l'Espagne ses 90 minutes. Il était titulaire. Il a 22 ans. Il a aussi le profil de Busquets, comme le disait Xavier. C'est un numéro 6. Il est grand. Il est technique. Il a une très bonne sortie de balle et il va être en duel contre le milieu du Barça et surtout face à Messi. Et ça va être un beau match pour lui, son premier classique avec l'Atlético. Ça va être un joueur à suivre.
Le joueur à suivre de l'Atlético Madrid. Merci beaucoup Samuel. Rémy Ngonou, carton jaune, rouge, vert.
Maki Hergé, de ma page Facebook Rémy Ngonou officiel, donne donc le carton rouge à son président guinéen Alpha Condé. Qui,
bien évidemment, a un rapport avec le football.
Ah oui, le CIMI de Guinée. Eh bien, vous vous rendez compte,
ils sont qualifiés.
Un milliard. Mais ils sont qualifiés. Mais sauf que depuis plus d'un mois, les élèves guinéens ne vont pas quand même à l'école. Pour les élèves, il n'y a pas d'argent. Et pour les footballeurs, subitement, comme partout en Afrique, les chefs d'État, pour se faire ceci de la propagande, ils sont toujours là pour dire que voilà, nous donnons ceci, 1 milliard, 2 milliards pour les footballeurs. Mais en fait, ils sont qualifiés, mais ils n'ont pas remporté de trophée, ils n'ont fait rien de super extraordinaire pour qu'on puisse abandonner la jeunesse et aller donner l'argent aux joueurs. Moi, je dis une chose.
Là, on n'est pas dans le foot.
Mais.
Et c'est pas un problème spécifique à la Guinée.
Il a donné. C'est-à-dire que donner de l'argent aux footballeurs pour n'importe quoi, on donne de l'argent et tout, comme s'il n'y avait pas de problème ailleurs. Il y a un proverbe africain, parce que là, il croit, par exemple, ce n'est pas remporter un trophée que d'être qualifié pour la CAN. Non. Et un proverbe africain qui dit, quand l'aveugle touche le mur, il croit qu'il a atteint le ciel.
Franck Simon, ouais. Votre carton.
Mon carton, il est rouge et il va en fait à ceux qui bloquent, que ça soit côté africain ou côté européen, les deux jeunes joueurs du TP Mazembe, Kasongo et Kasson, qui ont signé un contrat de prêt fin août pour Courtrai. Il devait partir pour 2 ans.
Courtrai en Belgique.
Malheureusement, ils sont bloqués. Ils ont reçu leur permis de travail. Ils ont le CIT est parti. Tout va bien. Sauf que ça fait 3 mois que le club belge les attend. Il y a un blocage. Vous savez qu'il y a un souci entre la Belgique et la RD Congo au plan diplomatique. Toujours est-il que ces enfants, ces jeunes joueurs de 19 ans, sont bloqués. On les empêche d'aller faire leur métier en Belgique et puis de peut-être pouvoir ensuite, pourquoi pas, rejoindre des équipes nationales, leur équipe nationale. Donc le carton rouge à ceux qui aujourd'hui les empêchent de faire ça. Et heureusement, ils ont quand même le soutien de l'académie KFA, Katumbi, et puis du club de Courtrai.
Merci Franck Simon. Là, ça fait un carton vert, 2 cartons rouges.
Je vais mettre un vert au rouge aujourd'hui.
Un vert rouge. Alors ça, c'est bizarre.
Un vert au rouge, au rouge de la Nati. Les petits Suisses qui m'ont fait bien plaisir cette semaine en se qualifiant pour la Ligue des Nations, en renversant une situation a priori complètement perdu face à la Belgique, 3e de la dernière Coupe du Monde. Ils ont fait preuve d'un caractère qu'on leur connaissait pas, parce que je dois avouer que cette équipe suisse a de la qualité, mais elle avait été très décevante pour moi à la Coupe du Monde en se faisant éliminer par la Suède dès les 8e de finale. Et on sait que c'est des joueurs qui ont un potentiel intéressant. Ils jouent dans des grands clubs. Shaqiri est maintenant à Liverpool. Xhaka est à Arsenal. Ricardo Rodriguez est à Milan. On va pas tous les citer. Et puis là, contre la Belgique, ils étaient menés 2-0 et ils gagnent 5-2. Voilà. Donc je dis bravo parce que ça a été un match incroyable. Et à l'arrivée, ce football suisse qui a de la vraie qualité, qui a beaucoup travaillé sur la formation, qui avait été champion du monde des 17 ans en 2009 au Nigeria, on s'en souvient peut-être. Les meilleurs de cette génération sont bien sûr maintenant les piliers de cette sélection A de la Nati. Eh bien, ils arrivent enfin à un tournoi final. Ils seront dans les 4 de la Ligue des Nations en juin prochain au Portugal.
Oui, ça rappelle un petit peu ce qu'on attendait de la Belgique, hein, qui a mis du temps à arriver, ouais. Quelque part. Voilà, donc chapeau à la Suisse. Alejandro Valenti.
Moi, je vais prendre la route avec Xavier. Je vais donner un carton vert en Suisse. Bernard Chaland, l'entraîneur bien connu, qui aujourd'hui entraîne les Kosovo. Et figurez-vous qu'il a réussi une mission quasiment impossible, puisque le Kosovo, non seulement a réussi une superbe campagne en Ligue des Nations, il s'est qualifié pour monter en Ligue C, mais il est à 2 matchs de se qualifier pour l'Euro 2020, puisqu'il est qualifié pour les Final Four de sa catégorie. Ils ont un match contre la Macédoine, et s'ils gagnent, il leur suffira d'une victoire et ils seront qualifiés pour l'Euro 2020, ce qui serait quand même exceptionnel.
Donc, si je comprends bien, je vais jouer la Coupe du Monde 2020, puisque moi...
L'Euro
2020, puisque moi également, quand j'étais à la prison centrale de Kondengi, j'étais au quartier Kosovo.
C'est l'équipe. Il faut peut-être expliquer aux téléspectateurs rapidement, parce qu'on n'a pas le temps.
Aux auditeurs.
En fait, cette Ligue des Nations, il y a les éliminatoires de l'Euro qui vont être tirés au sort le mois prochain, offriront 20 billets pour l'Euro 2020 qui aura lieu dans 12 villes européennes, qu'il n'y a pas de qualifiés d'office, et que les 4 autres billets sont attribués aux vainqueurs du barrage de chaque division de la Ligue des Nations. Et donc peut-être que le Kosovo y sera.
Allez, le carton de Radio Foot, il est jaune aux dirigeants du Al Ahly du Caire qui ont limogé leur entraîneur Patrice Carteron, le Français champion d'Afrique avec le tout-puissant Mazembe en 2015, remercié après la finale de Ligue des Champions perdue par le Al Ahly face à l'Espérance de Tunis. Il n'y a que le résultat qui compte, hein, au plus haut niveau africain. Merci Franck Simon, merci Xavier Barré, merci Alejandro Valente, merci Rémy Ngono. Ce week-end, vous n'oubliez pas sur RFI Mondial Sport, 21h30, universel. Radio Foot revient lundi. Ciao, bon week-end sur RFI.